Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être on peut fermer la porte derrière pour ne pas déranger nos voisins. Merci. Voilà, je commence comme d'habitude par une toute petite reprise. Donc, dans un premier chapitre, je vous ai présenté la charte de la théologie fondamentale à partir de la première lettre de Pierre. Soyez toujours prêts à faire l'apologie devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Le deuxième chapitre était plus technique, rapide, c'est-à-dire j'ai distingué les trois fonctions de la théologie fondamentale. La fonction herméneutique, donc j'ai expliqué ce terme, qui a traité de la question, la foi chrétienne, qu'est-ce que c'est quoi? La fonction apologétique, deuxième fonction, pourquoi y adhérer? Quels sont les motifs de crédibilité que nous pouvons avancer personnellement et devant d'autres? Et la fonction épistémologique, hein, qui traverse un peu l'ensemble du parcours, c'est-à-dire qui s'interroge sur le comment et notamment sur la question de la raison, foi et raison, la raison qui intervient, quelle raison et comment. Voilà, ça c'était le deuxième chapitre. Et ensuite, dans le troisième chapitre, nous nous sommes intéressés à cette figure du quiconque. Qui est-il? Aujourd'hui, hier, devant qui il s'agit de rendre raison de notre espérance, donc avec la question du paysage dans lequel nous évoluons, le paysage spirituel de notre époque. Et je vous ai déjà présenté très rapidement deux textes pour ce qui est de l'époque moderne et le problème de la différenciation, la figure de Durkheim, un texte de Durkheim. Et ensuite, j'ai cité notamment Max Weber pour caractériser le pluralisme radical qui caractérise maintenant notre post-modernité. Et nous avons terminé, c'était la page 10, avec quelque chose peut-être un tout petit peu plus concret concernant la question du sens, la difficulté aujourd'hui de socialiser cette question et d'accéder à une structuration de nos consciences. Donc au point de départ de la théologie fondamentale, il y a au moins cette question, quel sens donner à mon existence? Vous avez là les quatre tirets avec au fond quatre affirmations. La vie est approuvée par la plupart comme fondamentalement problématique. Répondre à ce caractère problématique et contingent de notre existence, les grandes élaborations qui cohabitent maintenant dans nos sociétés pluralistes, j'en ai nommé quelques-uns, mais la plupart de nos contemporains inscrivent la question du sens et leur réponse immédiatement dans leur manière de vivre, d'habiter le monde. J'ai évoqué brièvement l'éclatement de nos existences dans le temps et dans l'espace, l'unité étant le problème principal au fond de notre vie humaine. Et ensuite, vous voyez, la mort de l'homme comme un risque au fond qui menace maintenant les êtres humains. La fin au fond de l'humanisme occidental, hein, et qui n'est plus du tout garantie. Et l'alternative, vivre une manière authentique avec au fond ce miracle que nous observons quotidiennement, qu'il y a beaucoup de gens autour de nous et nous-mêmes sans doute qui tiennent debout, hein, dans un univers qui est quand même devenu relativement chaotique, si je puis dire. Alors, j'en viens maintenant, ce sera notre objet central d'aujourd'hui, au dernier chapitre, quatrième chapitre de cette partie d'introduction. Nous allons revenir maintenant à la théologie fondamentale, à l'histoire de la théologie fondamentale, les différentes étapes qu'elle a parcourues, et avec un critère, au fond, qui traversera l'ensemble de notre parcours, c'est-à-dire, j'ai la dernière fois appelé la théologie fondamentale le ministère des Affaires étrangères de l'Église. Donc, c'est le rapport à quiconque. Et dans la mesure où quiconque n'est plus le même aujourd'hui qu'hier et avant-hier, il y a une histoire, évidemment. Une histoire et une histoire des cultures. Et donc, du coup, la théologie fondamentale a évidemment beaucoup bougé parce que elle s'est adaptée toujours à cet autre. Donc, nous allons étudier cette histoire et, au fond, je dirais, avec une perspective, c'est une science, pourrait-on dire, entre guillemets, très occidentale. Et en faire l'histoire, c'est poser les conditions d'une déoccidentalisation de cette science. Et je crois que ça, c'est le point, au fond, je dirais. Nous ne pouvons pas, ici, en Europe, faire la théologie fondamentale à la place des Indiens, des gens de l'Amérique latine, etc., etc. C'est devenu très pluriel maintenant, heureusement. Mais c'est quand même, je dirais, l'origine est ici de cette théologie fondamentale. En faire l'histoire, c'est la défaire, d'une certaine manière, devant vous, pour que d'autres puissent, là où ils sont, la refaire à leur manière. Vous voyez, ça, c'est un peu le but de ce chapitre. Et comme toujours, il y a les questions fondamentales de l'homme qui sont au point de départ, mais la question centrale, c'est quand même comment est considéré l'autre. Ce n'est pas uniquement qui est l'autre, mais comment est-il considéré. Alors, la dernière fois, on a vu déjà cette question de l'autre. Évidemment, depuis le IIe siècle, l'autre est omniprésent. Le dialogue de Tryphon, avec Tryphon de Justin, donc avec les Juifs, avec les païens, vous avez rappelé une sorte de paysage spirituel tripartite, qui est celui de l'Antiquité, les païens, les Juifs, les païens, et le tertium genus, le troisième genre, que sont les chrétiens. Et ça va bouger avec la naissance de l'islam, évidemment, et il faudra un peu de temps pour qu'on arrive à un paysage quadripartite, si je puis dire, c'est-à-dire avec quatre secteurs, les musulmans, les juifs, les musulmans, les païens et les chrétiens. Et c'est seulement au XVIe siècle, c'est ça que je vais vous montrer, qu'apparaît la notion de fondement. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Au Concile de Trente, la notion de fondement, mais pas uniquement au Concile de Trente, mais c'est spécifique, si vous voulez, je dis à cette question, qu'est-ce qui fonde finalement la foi? La foi s'appuie sur quel roc, sur quel fondement? Ça, c'est la question de la théologie fondamentale. C'est à partir de ce moment-là qu'elle émerge. Et voyez, qui est l'autre? L'autre, c'est d'abord, évidemment, au XVIe siècle, au sein de la chrétienté latine, ce sont les luthériens, les calvinistes, ceux qu'on appelle les protestants. À partir du XVIIe siècle, ça va s'élargir. Ce n'est plus la question uniquement de l'identité catholique qui est en jeu, par rapport à une identité luthérienne ou calviniste ou réformée. À partir du XVIIe siècle, il y aura, si je puis m'exprimer ainsi, un ennemi commun qui va paraître, c'est le rationalisme, le déisme, une nouvelle conception de la raison, avec d'ailleurs des implications politiques importantes. Je vais un peu expliquer ça. Et il y a une troisième étape, le XIXe siècle, avec l'émergence des sciences. Et donc l'autre, c'est au fond les positivismes, c'est l'athée, l'incroyant, etc. Et là, le terrain va encore une fois s'élargir. Et c'est au fond, à partir de la première moitié du XIXe siècle, qu'on assiste à une première systématisation de la théologie fondamentale, avec quelques auteurs que je vais vous montrer. Voilà donc ce que nous allons faire. Donc, premier point, la naissance de la théologie fondamentale. Deuxième temps, à partir donc du XVIIe siècle, il y a trois termes techniques qui vont venir, que je vous préciserai, et je terminerai avec le Concile Vatican II, petite initiation au Concile Vatican II, à la page 13, le programme du Concile Vatican II, 62-65, et l'actuelle transformation de la théologie fondamentale. Voilà, donc ça c'est le projet, grosso modo, pour aujourd'hui. D'un point de vue lecture, vous voyez, je vous indique ici, vous trouvez ça dans la bibliographie, l'histoire des dogmes, le quatrième tome. Le quatrième tome, c'est, je l'ai édité avec le père Cesboué ensemble. J'étais plutôt responsable de la phase que je viens de décrire et de traverser. Donc, vous trouvez l'essentiel de ce que je dis dans cette partie du quatrième tome de l'histoire des dogmes. Vous pouvez aussi vous référer éventuellement, il y a d'autres manuels que j'indique, aussi mon ouvrage sur la révélation. Voilà. Alors, l'émergence de la question du fondement de la foi, donc le point B de la partie 1 du quatrième chapitre. Alors, il faut regarder ici, évidemment, d'abord, très brièvement, j'y vais y revenir de manière beaucoup plus explicite dans la première, dans toutes les parties du cours, la position luthérienne qui déclenche, évidemment, le Concile de Trente et qui va introduire la notion de fondement. Vous voyez, c'est les sola, comme on dit, seuls. Hein, la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule, qui est en jeu ici. Donc la foi seule, évidemment, je dirais en opposition, si vous voulez, je dirais à des traditions au pluriel, qui risque d'encombrer, faut le reconnaître, le donné chrétien, notamment le débat sur les indulgences, vous avez entendu parler déjà, avec aussi une économie des indulgences pour construire Saint-Pierre. Il y a état de cause historique. Patrick Goujon fait le cours historique sur Luther et le Concile de Trente. Donc vous allez avoir des renseignements beaucoup plus précis pour cela. Alors le seul est un acte de protestation pour revenir à l'essentiel. Et le retour à l'essentiel implique évidemment au centre, donc le Christ crucifié, la grâce, la justification par la foi, et non pas les œuvres, par la foi. Et donc l'écriture, il faut comprendre le seul essentiellement compris comme un acte critique. L'écriture inspire, bien sûr, elle nourrit, mais elle a aussi une fonction critique, dit Luther et le luthéranisme, par rapport à toutes nos traditions. Et on va retrouver ça d'ailleurs dans la troisième partie du cours et avec le Concile Vatican II qui intègre quelque chose de cette fonction critique des Écritures. Donc, il y a une nouvelle forme, c'est le terme que j'utilise dans la petite conclusion du point B. Luther propose une autre forme de la foi. Ce point est très important, une autre figure de la foi. À partir de cela, il y a, si vous voulez, je dirais, au moins deux, sinon trois figures de la foi. Il y a aussi la figure orthodoxe de la foi. Alors, pourquoi j'utilise ici le terme figure et forme ? Pour réagir, si vous voulez, par rapport à une image un peu élémentaire et polémique qu'on va retrouver plus tard. Vous avez, si vous voulez, je dirais, d'un côté une totalité de la foi catholique, et alors, je dirais, Luther souligne un aspect, un élément, ce qui donne le terme haïresis, hérésie. Hérésie, hérésie, ça veut dire sélection, on sélectionne. Et du coup, vous avez une sorte de schéma global dont on est sorti avec le texte sur l'œcuménisme de Vatican II. Mais c'est quand même le schéma global qui détermine nos relations avec les luthériens, les calvinistes, les réformés depuis le XVIe siècle. Le schéma totalité-élément. Les catholiques ont sept sacrements, les luthériens n'ont que deux, n'est-ce pas ? Vous voyez, c'est ce schéma-là, le baptême et la scène. Les catholiques ont la l'écriture et la tradition. Les luthériens n'ont que l'écriture, vous voyez. Les luthériens soulignent la foi. Les catholiques, c'est la foi et les œuvres. Donc, vous voyez ce petit « et » qui détermine au fond un peu le débat. Donc, ce que je vous invite pour le moment, de prendre conscience, si vous voulez, de ce schème, et qu'il faut évidemment rediscuter, et ce que Vatican II a fait très sérieusement dans le décret Unitatis Redintegratio, c'est-à-dire le De Ecumenismo, sur l'ecumenisme, d'une manière assez remarquable, sans nier, vous voyez, les différences, sans nier les vraies différences qui existent. C'est pour cette raison-là que je parle d'une nouvelle forme de la foi, une figure nouvelle. Le luthéranisme est un tout, le catholicisme est un tout, le calvinisme est un tout, voyez. Et vous ne pouvez pas simplement le décomposer en éléments. Voilà l'enjeu. Donc il y a un autre qui émerge ici avec force, et c'est une division extrêmement douloureuse, conflictuelle, violente, qui conduit vers les guerres de religion. Faut pas le nier. Dans l'Europe, partout, et c'est exporté aussi très rapidement à l'extérieur. Donc, la position luthérienne. Alors, le Concile de Trente répond, si vous voulez, à un appel, je dirais, de Luther. L'appel au Concile. Mais à un moment donné, il n'y croit plus d'une certaine manière qu'un concile peut régler la question. Il a un grand texte, De Conciliis, où il traite un peu de sa position, de ce que c'est le concile. Alors, voyez là, 1517, c'est la date symbolique de la réforme, 1517, avec l'affichage des thèses de Luther à Wittenberg, donc on est en Allemagne de l'Est plutôt, centre-est, à Wittenberg, et donc l'Empire est enflammé d'une certaine manière, et il fallait quand même attendre 45, vous voyez, c'est long, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à un concile avec un débat, à la suite d'un débat extrêmement serré entre Charles Quint, l'empereur, et qui, évidemment, je dirais, a des raisons politiques. Il veut avoir un empire unifié. Il a des problèmes, évidemment, avec les divisions à l'intérieur de son empire, comme Constantin pour le premier concile de Nicée. Et Rome. Et Rome veut un concile doctrinal, et l'empereur veut enfin un concile de réforme. Parce que c'est évident, l'Église romaine a besoin d'être réformée. La notion de réforme n'est pas inventée au XVIe siècle, elle remonte au XIIe siècle, déjà. Voilà. Donc ça dure depuis des siècles. Et notamment les Germains, pour parler ainsi, avaient beaucoup insisté là-dessus. Voilà. Les récriminations de la nation germanique, voilà, pour une réforme. Et donc il y a un compromis qui va s'établir. Et le compromis consiste à traiter en même temps les questions de réforme et les questions doctrinales. Et vous voyez, ça vous annonce déjà l'idée d'un concile pastoral. On ne peut pas séparer doctrine et réforme. Réforme et doctrine. Et le concile se joue à la frontière de l'Empire, à Trente, pour que les luthériens puissent venir. Voilà. Donc, il ne se joue pas à Rome ni dans les États pontificaux, à Trente. Alors, il y a trois sessions, vous voyez, je vous ai donné les dates, 45 jusqu'à 47, 51, 52, déplacement après une crise à Bologne, en Italie du Nord, et en 59, 65, donc c'est loin déjà des débuts de la réforme, on revient à 30. Et alors, il y a les quatre premiers décrets qui nous intéressent pour la théologie fondamentale. Il y a d'abord le 13 décembre, ce qu'on appelle un décret d'ouverture. Ensuite, donc, il y avait trois légats, le pape évidemment est absent. Il y a trois légats qui gouvernent le concile en son nom. Voilà. Ensuite, le 7 janvier 46, le décret sur le mode de vie dans le concile, alors c'est très amusant, donc il y a des règles, comment vivre, sobrement, etc. Et on n'est pas très loin du carnaval, donc comment vivre, le carême. Ensuite, le 4 février 46, alors ça c'est, je dirais, un texte extrêmement intéressant dont je vous ai donné un petit extrait ici, c'est-à-dire on cherche une base commune entre tous les chrétiens, et c'est évidemment le symbole de Nicée-Constantinople. Voilà. Donc, la réception, le concile fait acte de réception du symbole de foi catholique. Et c'est là où apparaît pour la première fois la notion de fondement. C'est pour ça que je le cite. C'est pourquoi le concile a estimé qu'il fallait exprimer le symbole de foi qu'utilise la Sainte Église romaine comme étant le principe dans lequel se retrouvent nécessairement tous ceux qui professent la foi du Christ. Donc le symbole de Nicée-Constantinople. Et l'unique et ferme fondement, voilà, la terminologie vient, c'est l'acte de naissance de la théologie fondamentale, contre lesquels, alors ça c'est surprenant, on cite ici Matthieu 16, 18, qui viendra le texte central à Vatican I, pour évidemment le primat romain. Mais ici, il est cité, comme dans beaucoup de textes de la tradition, comme fondement du symbole. C'est-à-dire, il s'agit de la foi qui est le fondement de l'Église. Quel est le roc? Le roc, c'est la confession de foi de Pierre. Voilà. Et l'unique et ferme fondement contre lesquels les portes de l'enfer ne prévaudront jamais, en reprenant les mots avec lesquels il est dit dans toutes les églises, deux points, et on cite le credo de Nicée-Constantinople. Troisième décret. Et ensuite, vous voyez, on entre dans un âge au XVIe siècle, l'humanisme, où on a déjà une idée au fond de la rigueur, un certain type de rigueur des choses. Alors ensuite, le symbole, tout le monde sait, évidemment, c'est du IVe siècle, le symbole s'appuie sur quoi? Et voyez, vient un quatrième décret, et là, il fallait du temps, parce que là, on entre dans le débat avec le luthéranisme. Le 8 avril 46, deux décrets. Le premier décret, réception des livres saints, donc de l'écriture sainte, et des traditions des apôtres. Vous voyez, je le citais déjà tout à l'heure, le petit E va intervenir ici avec un énorme problème jusqu'à Vatican II. Et je crois qu'il n'est toujours pas réglé, le problème. Voilà. Mais là, il apparaît pour la première fois. Vous avez d'ailleurs un texte absolument remarquable de Josef Ratzinger, vous voyez, ni cardinal ni Benoît XVI, parce qu'il était au concile comme théologien, hein, et avec Karl Rahner, il a fait un petit livre sur ce problème. Et le deuxième décret, édition de la Vulgate, donc la traduction latine de la Bible, dans les disputes théologiques, et la manière d'interpréter les Écritures. Donc vous avez évidemment le texte à la page 65, donc je vous invite quand même de le regarder très, très rapidement pour que vous ayez déjà une première idée, on va le regarder un peu plus en détail plus tard. Donc c'est l'annexe, vous voyez, que vous avez, c'est l'annexe numéro 2. Alors ce qui est, je lis le début, c'est très beau. Parce que, vous voyez, on revient quand même ici à une source commune. Il y a une seule source, et c'est l'Évangile. Le Saint Concile, le communiqué général de Trente, légitimement réuni dans l'Esprit Saint, reviendra plus tard à cette formule, sous la présidence des trois mêmes légats du siège apostolique. Donc, vous voyez, on parle pas de pape encore, on parle du siège apostolique, c'est-à-dire l'Église de Rome, voilà, comme un peu dans l'Antiquité. Garde toujours devant les yeux le dessein de conserver dans l'Église, en supprimant les erreurs, la pureté de l'Évangile. Donc on peut parfaitement dire, ça c'est le but commun hein, de tous les chrétiens, la pureté de l'Évangile. Qui, et maintenant vient les tria tempora, hein, les trois temps de l'Évangile, qui, promis auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures, a été d'abord promulgué par la bouche, même de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le deuxième temps, Fils de Dieu, et ensuite, troisième temps, ensuite par ses apôtres, on ne peut pas séparer Jésus et les apôtres, auxquels il a ordonné de le prêcher à toute créature, et les deux citations clés qui vont nous poursuivre, si je puis dire, jusqu'à Vatican II, n'est-ce pas? On va les retrouver dans Lumen Gentium, évidemment. Tellement c'est central. Comme étant l'évangile, la source. Ah, il faut entendre littéralement la source, c'est-à-dire le lieu. Pensez à la Samaritaine. Voilà. La source. De toute vérité salutaire et de toute règle morale. Donc, il faut entendre ça dans le langage du XVIe siècle. Donc, les deux intimement liés. Hein, je dirais, parole et acte. Parole et acte, intimement liés, dira Dei Verbum. Voyant clairement que cette vérité et cette règle sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites, alors il faudra s'expliquer là-dessus, ou transmises comme de main en main, c'est très joli, vous voyez, c'est une question de le relais, une course de relais, c'est une vieille métaphore, de main en main par les apôtres, sous la dictée de l'Esprit-Saint, sont parvenus jusqu'à nous, le Saint-Concile, suivant l'exemple des pères orthodoxes, reçoit, voilà le terme clé, un concile est d'abord un acte de réception, et ça fait partie du cœur même de la tradition. Saint Paul dit, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 10 et 15, « Je vous ai livré ce que j'ai reçu moi-même. » Et un concile fait exactement ça. Le concile livre ce qu'il a reçu, reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, puisque Dieu est l'unique auteur de l'un et de l'autre, ainsi que les traditions concernant la foi, soit les mœurs, comme venant de la bouche même du Christ. Donc vous voyez, il n'y a pas toutes les traditions, il y a un critère de limitation ici. Mais en même temps, il y a un problème là. Voilà. Ou dicté par le Saint-Esprit et conservé dans l'Église catholique par une succession continuée. Il a jugé bon de joindre à ce décret une liste des livres. Et vous voyez, ensuite vient le canon des Écritures. Et regardez l'autre colonne. Avant la petite rupture, c'est le deuxième décret qui vient après. Ainsi, tous pourront comprendre l'ordre de la voie que le concile suivra, la via, la voie, après avoir établi le fondement de la confession de la foi, ainsi que les témoignages et les appuis plus particuliers qu'il utilisera pour confirmer les dogmes et restaurer les mœurs. Voilà, voyez, ce texte est tout à fait décisif. C'est la charte, ce qu'on peut appeler la théologie fondamentale. Donc, vous avez le symbole, hein, mais le symbole lui-même n'existe pas sans ce qui le fonde lui-même, les Écritures et ce qu'on appelle ici les traditions. Voilà. Donc, on précisera tout ça. Comme ça, vous retrouvez plus facilement les textes. Et ensuite vient un deuxième décret sur l'interprétation. Alors, le texte latin, alors là, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, hein, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est reconnu, c'est les textes originaux, textes grecs et textes hébreux pour l'Ancien Testament ou les Septante, évidemment. Mais à l'époque, vous voyez, on est dans cette tradition latine où, dans l'argumentation publique et officielle, c'est le texte latin. Et il faut savoir, pendant le Concile de Trente, c'est absolument unique. Vous avez eu sur le pupitre du Concile, pas seulement l'évangéliaire, c'est-à-dire l'Écriture et les quatre évangiles, mais aussi la somme de saint Thomas d'Aquin, le docteur commun. Donc vous voyez, là, il y a un lien intime et qui sera défaite et réorganisé d'une autre manière à Vatican II, bien évidemment. À Vatican II, comme au concile de Nicée, les premiers conciles, c'est évidemment la Bible, hein, qui préside au concile et qui, chaque matin, quand le concile se rassemble, est publiquement exposé, etc. Et ensuite, on chante le Veni Creator Spiritus, c'est-à-dire l'appel à l'Esprit Saint. Ça, c'est la très belle ritualité depuis le IVe siècle du Concile. Mais là, on ajoute la somme théologique. Donc, la langue latine. Et ensuite, la finale. En outre, pour contenir certains esprits indociles. Alors, vous voyez, là, on n'est plus sur le plan du dialogue, mais on est dans cette logique, évidemment, apologétique, vous voyez, de défense et d'opposition à l'autre. Il décide que personne dans les matières de foi ou de mœurs qui font partie de l'édifice de la doctrine chrétienne. Ah, voyez, vous avez là une métaphore très importante à laquelle on va revenir. L'édifice. L'édifice. Donc, le dogme et la morale sont comme un édifice, voyez, qu'on habite. Comme l'Église est un édifice, plus tard l'Église baroque, vous voyez. L'édifice de la doctrine chrétienne ne doit, en se fiant à son jugement, oser détourner l'Écriture sainte vers son sens personnel, contrairement au sens qu'a tenu et que tient notre mère, la Sainte Église, à qui il appartient de juger du sens et de l'interprétation véritable des Saintes Écritures, ni non plus interpréter cette Sainte Écriture contre le consentement unanime des pères, même si ce genre d'interprétation ne doit jamais être publié. Bon, peu importe les détails. Donc vous voyez, ici émerge déjà un peu le magistère. Le magistère ecclésial et l'idée du jugement d'interprétation du sens des Écritures. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, déjà l'essentiel de la première partie du premier chapitre. Alors on va regarder la conclusion et ensuite on va aller plus loin. Donc premièrement, il y a véritablement une altérité. C'est ça qu'il faut reconnaître d'abord aujourd'hui, dans une perspective œcuménique. Même si, à l'époque, évidemment, on aborde cela d'abord dans une logique d'hérésie de tout et des éléments. Mais au moins, si vous voulez, ça suscite, évidemment, dans l'Église, la présence luthérienne, calviniste, réformée, suscite dans l'Église une question, mais finalement, qu'est-ce que c'est la foi catholique ? C'est ça qui est important, qu'il faut enregistrer. Finalement, qu'est-ce que c'est la foi catholique ? Il ne suffit plus, si vous voulez, de partir d'une possession tranquille, c'est un terme canonique, du droit canonique. On est en possession tranquille d'une identité. Il ne suffit plus, il y a un autre. Rappelez-vous la première séance d'une rencontre. Donc, il faut se réassurer et se réinterroger sur le sens de la foi catholique. Et vous voyez, c'est là où pour la première fois apparaît la question du fondement. Fondement du symbole, les Écritures, les traditions non écrites, et on perçoit déjà un magistère, au moins conciliaire ici, qui interprète et qui décide. Voilà. Donc, définition de la forme catholique de la foi. Elle est fondée sur le rapport entre l'Écriture et la tradition. Et on est à la fois dans l'apologétique, évidemment dans une défense, et on est au niveau herméneutique d'une interprétation. Alors, vous voyez, j'ai omis cela, Luther, une autre forme de la foi, le rapport entre l'Écriture d'un côté et la conscience, chez Luther passe pour la première fois au fondement. Ça c'est un acte décisif que Vatican II va reprendre. Ce qui, dans le texte que je viens de vous lire, est simplement appelé le jugement personnel. Mais est-ce qu'on peut réduire la conscience de l'être humain à un jugement personnel uniquement ? Donc chez Luther, le fondement de la foi, c'est à la fois quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qu'on ne peut pas manipuler, c'est l'Écriture, et c'est la conscience. C'est la conscience. La foi à son siège dans la conscience. Je vais vous lire un texte plus tard qui vous réexplicitera ça. Alors, dans la forme catholique de la foi, elle est fondée sur le rapport entre l'Écriture et la tradition. Et interviennent déjà ici, je viens de le dire, les instances magistérielles sans que leur statut soit vraiment défini. Et ça, il faut attendre Vatican I, c'est Vatican I qui va introduire la question, et Vatican II, le statut du magistère. Quel est son rôle exact et précis ? Alors, j'en viens maintenant, si vous voulez, à une deuxième partie dans cette histoire que j'ai donnée ici, si vous voulez, je dirais, les titres latins. Ça vous montre à la fois l'intérêt, je dirais, limité de la chose, mais en même temps, il y a un vrai intérêt. C'est pour ça que je le garde quand même. voyez, il y a les trois mots catholica, cristiana et religiosa qui viennent ici. Tout le monde comprend catholique, chrétien et religieux. Voyez, ça s'emboîte, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Ça dit une identité. Donc, au XVIe siècle, ce qui est interrogé par les luthériens, les réformés, les calvinistes, etc., c'est évidemment l'identité catholique. Mais face à l'âge des Lumières, le rationalisme des Lumières, le déisme, j'expliquerai un peu cela, c'est la question, c'est plus uniquement la question qu'est-ce que c'est être catholique ou luthérien, mais beaucoup plus radicalement, qu'est-ce que c'est être chrétien. Et voyez, va apparaître ici une distinction assez nette entre naturel et surnaturel. L'identité chrétienne n'est pas seulement naturelle, c'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. Ça sera la clé, le concept de clé. Et au XIXe siècle, le positivisme, vous voyez, on va y revenir un peu plus dans quelques instants, c'est même, je dirais, le caractère religieux de l'être humain qui est contesté. Donc c'est une contestation encore plus radicale, catholique, chrétien, religieux. Voilà. Est-ce que l'être humain est un être religieux? Voyez, on ne se pose pas encore la question, est-ce que la tradition chrétienne est une tradition religieuse? Bonhoeffer, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et Karl Barth et d'autres, évidemment, contesteront le caractère religieux. Le christianisme n'est pas une religion. Marcel Gauchet, en France, qui a écrit le livre « Le christianisme est la religion de la sortie de la religion ». Je crois, voyez, de la sortie de la religion. C'est peut-être vrai pour une part. Faut regarder ça. Mais voilà, donc... ça, c'est donc les trois cercles, vous voyez, catholique, chrétien et finalement religieux. Et demonstratio veut dire démonstration, on est dans l'apologétique. Il faut prouver quelque part, il faut montrer. Donc, ce sont trois étapes. Alors, le point A vous montre les deux seuils passés historiquement. Je viens de les expliquer deux fois déjà, donc on peut rapidement les lire. Qu'est-ce qui s'est passé entre la réforme et 1870, donc le Concile Vatican I. Donc il y a deux seuils qui ont été passés. Premier seuil, d'abord, je l'ai déjà évoqué, les guerres de religion. Les guerres de religion. N'oublions pas la date de Henri IV, ici en France, 1598, l'édit de Nantes, et sous Louis XIV, 1685, l'abolition de l'édit de Nantes. En Allemagne, pays de la Réforme, c'est un peu différent, c'est déplacé. C'est notamment la guerre des 30 ans, 1648. C'est la paix de Westphalie, la fin de la guerre des 30 ans, 1618-1648. Qu'est-ce qui résulte de ça? Donc des déchirures confessionnelles de l'Europe, ces expériences terribles qu'on n'imagine pas aujourd'hui, parce que nous, on les imagine toujours ailleurs, l'islam, n'est-ce pas? Mais nous, on a connu des épisodes. Et je dis, les oppositions entre catholiques et protestants en Irlande, c'est pas si lointain encore, si on y réfléchit. Et ce qui s'est passé en Serbie et en Croatie, etc. C'est proche encore, vous voyez. Donc, il y a une leçon qu'il fallait tirer. Et là, ces guerres font la preuve qu'aucune confession ne peut plus fournir le principe du lien social et politique. Voilà. Et c'est la naissance du déisme. Oui, il y a un principe divin. Donc on a les francs-maçonneries, plus ou moins religieuses, mais elles sont plus ou moins toutes déistes. Un principe qui n'intervient pas. Pensez au texte de Durkheim. Il domine de loin. Vous voyez, ça commence par là. Donc c'est l'effet, au fond, je dirais, politique des guerres des religions. On ne peut plus se fier aux religions, aux confessions, pour créer l'unité d'un État. Donc c'est l'absolutisme et tout ce qui va en suivre. Et donc du coup, l'apologétique chrétienne, catholique et protestante, parce que les deux existent, vont dire, mais je veux dire, le christianisme, ce n'est pas uniquement une religion parmi d'autres naturelles, elle est surnaturelle. Ce n'est pas uniquement le déisme, c'est au fond, je veux dire, une religion naturelle, entre guillemets. Une religion naturelle. Le christianisme est surnaturel. Alors, le piétisme allemand va prendre Spener et d'autres, on est tout au début du XVIIIe siècle, va prendre une position intermédiaire qui va s'appuyer surtout sur le sentiment religieux, sur l'affectivité, qui va émerger avec force. En France, c'est la dévotion au Sacré-Cœur, pareil le monial, qui va naître à cette époque-là. C'est très important, vous voyez, l'affectif, tout d'un coup, va sortir ici. Ce n'est pas uniquement, je veux dire, le dogme et la morale, mais il y a une affirmation affective et mystique qui va émerger. Donc, le sentiment religieux va se greffer, évidemment, je dirais, sur cette révolution, si je puis dire, la révolution américaine et la révolution française, pour aller très vite, et ce qui va se mettre à la place des confessions, politiquement, ce sont les droits de l'homme. Ce sont les droits de l'homme. Avec ou sans Dieu, aux États-Unis, avec Dieu, il y a la tradition espagnole, las casas, etc., pour l'Amérique latine, et la tradition française, c'est-à-dire des droits de l'homme sans Dieu, même si on a eu l'être suprême à Notre-Dame. Voilà. Voilà, ça c'est le premier seuil. Et donc, évidemment, la théologie fondamentale, qui ne s'appelle pas encore comme ça, va s'affronter à ça. Et donc, c'est plus uniquement la question catholique, protestant, etc. C'est la question, quelle est l'identité chrétienne? La demonstratio christiana. La demonstratio christiana. Et ensuite vient le deuxième seuil, l'intervention des sciences, c'est le 19e siècle. Vous rappelez, je dirais peut-être un tout petit peu de vos cours d'histoire, les grandes expéditions de Napoléon, le déchiffrement des hiéroglyphes, les recherches archéologiques qui vont commencer, la paléontologie progressivement, les langues orientales. On va comparer le christianisme à d'autres religions. On aura, je dirais, un premier évolutionnisme, Lamarck au XVIIIe siècle, ensuite Darwin, etc. Et c'est le règne du positivisme. Avec cet auteur, Auguste Comte, dont je vous ai donné des dates, qui va introduire un schéma, une sorte de nouvelle vision du monde, les trois âges de l'humanité, l'âge de l'enfance, de l'adolescence, et nous sommes en train, enfin, le progressisme, d'entrer dans l'âge adulte. L'Europe n'a pas encore connu la barbarie de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, une sorte de triomphalisme terrible. Ici, l'âge mythique de l'humanité, ensuite vient l'âge métaphysique avec la Grèce, et maintenant l'âge positiviste, c'est la science qui va maîtriser les sociétés. Et alors, évidemment, le catholicisme, mais aussi un certain type de protestantisme, va éprouver ce mouvement d'émancipation des sociétés comme une terrible menace sur leur avenir. Et il va s'interroger, et on va trouver ça dans quelques instants dans le Concile Vatican I, sur les fondements de la société. Les fondements de la foi catholique, les fondements de la foi chrétienne, les fondements de la société. Quels sont les fondements de la société? Alors, j'en viens au point B maintenant. Vatican I. Alors, qu'est-ce qui va se passer, donc, à Vatican I? Et donc là, si vous voulez, il faut d'abord regarder un tout petit peu les antécédents. Vatican II va maintenant répondre, si vous voulez, à cette menace plurielle. Donc, l'autre n'est plus le protestant seulement, mais aussi le déiste et plus encore le positiviste. Voilà, les trois. Et il va s'appuyer sur une théologie fondamentale, c'est le premier tiret, déjà existant. Donc, c'est ça qui est intéressant. déjà existants. Et on pourrait dire, je dirais, le premier des dates, ils sont indépendants, c'est donc un luthérien, je dirais, de Berlin. C'est la refondation après, si vous voulez, l'arrivée de Napoléon, etc. À Berlin, la faculté de philosophie viendra désormais la reine des facultés. Alors jusqu'alors, c'était la faculté de théologie. Et donc, dans la faculté de philosophie, on va déployer ce qu'on appelle l'herméneutique. La science maîtresse, c'est l'herméneutique, l'art d'interpréter. Vous voyez, ça c'est le premier tournant tout à fait décisif. Et c'est la figure de Schleiermacher qui a fait un petit livre qui est très très bien traduit sous le titre « Le statut de la théologie », qui est une introduction, c'est une théologie fondamentale avec trois parties. Le christianisme est d'abord une réalité historique, première partie, donc l'écriture et l'histoire. Ensuite, il est une réalité doctrinale, deuxième partie, et troisième partie, c'est une réalité pratique et ecclésiale. Et alors, il a, comment dire, parallèlement, dans le sud de l'Allemagne, à Tübingen, l'école de Tübingen, il a un parallèle, mais ils sont indépendants, parce que même l'ouvrage est avant, 1819, je voulais emmener ici, donc, qui fait aussi une théologie fondamentale du même type. On appelle ça une encyclopédie, vous voyez, c'est le terme. On n'a pas encore le terme théologie fondamentale, on appelle ça une encyclopédie à l'époque. C'est donc une sorte d'introduction, ce que je suis en train de faire avec vous, au fond. Voilà, du côté catholique, c'est le deuxième. Et il y a un troisième, Ehrlich à Vienne. Et c'est lui qui va, pour la première fois, utiliser le terme théologie fondamentale. Et cette théologie fondamentale est donc organisée, c'est les tirets suivants, selon les trois traités, comme on dit, trois traités, la Catholica, la Christiana et la Religiosa. Alors, je vous ai donné donc les éléments maintenant, ça s'organise parfaitement dans un enseignement. Il y a d'abord donc le fondement catholique de la foi. Donc là, je résume, le symbole, l'écriture et la tradition, et va s'ajouter à Vatican I, donc quelques années après, la définition du magistère. Deuxième élément, cette triple définition de la forme catholique de la foi concerne le rapport entre, ça c'est très important, entre l'Église et le Christ. Entre l'Église et le Christ. Vous voyez, pour le moment, on dira à cette époque-là, peut-être luthériens, calvinistes et catholiques ont la même foi, on peut discuter de ça, ou le même rapport au Christ. Mais ce qui fait la différence, c'est le rapport entre le troisième et le deuxième article. L'article, qu'est-ce que c'est l'Église, n'est-ce pas? Le rapport entre l'Église et le Christ. Alors, la forme ecclésiale de la foi... Apparaît déjà la question timidement, quelle est la forme ecclésiale voulue par le Christ? Finalement, quelle est l'Église qu'a voulu le Christ? Va se greffer là-dessus toute la recherche historique, évidemment. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on peut en savoir? On va y revenir. Alors, ensuite vient la demonstratio Christiana. Donc la spécificité chrétienne, et là va intervenir donc ce qui va être au cœur du Concile Vatican I, la distinction entre naturel et surnaturel, nature et surnaturel, le surnaturel, ce qui n'est pas naturel, ce qui ne vient pas de la nature ni de l'homme, ni de l'histoire, ce qui vient directement de Dieu, surnaturel, le concept de révélation, voilà, il va venir là, à cet endroit-là. Cette définition du christianisme porte sur la relation entre le Christ et Dieu. Donc, la relation entre le deuxième article du credo et le premier, Jésus étant la révélation de Dieu. Et donc, comment le montrer? Comment le prouver? Il a accompli les prophéties, il a fait des miracles, et l'ultime miracle est celui de la résurrection. Et ces trois miracles prouvent sa divinité. Voilà. On trouve ça encore jusqu'en 1950 dans les catéchismes. Oui, dans les catéchismes. Ça, c'est la démonstration chrétienne du caractère surnaturel de la religion chrétienne. Et ensuite vient la demonstratio religiosa, c'est-à-dire l'épreuve de Dieu. Alors là, c'est le premier article. Il faut montrer que Dieu est le fondement non pas uniquement du catholicisme, non pas seulement du christianisme, mais Dieu est le fondement de toutes les sociétés humaines. Et dans les débats, vous voyez, sur le mariage pour tous, il y avait un peu quelque chose de cela. Le catholicisme veut prononcer, ou des catholiques veulent dire quelque chose sur l'ensemble de la société. Le fondement. Donc ça, c'est dans le Concile Vatican I. Donc vous voyez, après, pédagogiquement, vous comprenez aussi que on va commencer par la fin dans un cours. Ça, c'est l'ordre plus naturel. Historiquement, ça a commencé la théologie fondamentale avec la Demonstratio Catholica. Mais pédagogiquement et logiquement, il faut commencer par la fin, l'épreuve de Dieu, et ensuite, qu'est-ce que c'est être chrétien, et finalement, qu'est-ce que c'est être catholique. C'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez. C'est très pédagogique en même temps, et on va bien, n'est-ce pas, faut former des prêtres à l'époque, on passait rapidement d'un tel cours à un certain type de catéchèse. Alors, maintenant, le Concile Vatican I. Alors, le Concile est évidemment un lieu culturel et religieux, je dirais, tout à fait conflictuel. Très conflictuel. Et on pourrait presque dire, heureusement, il y a eu la guerre franco-allemande en 70. Je crois qu'au mois d'août, quelques jours après la proclamation de l'infaillibilité pontificale à Saint-Pierre, qui fait que les Français ont retiré leurs troupes de Rome. Et donc Rome a été envahie, c'est l'unification italienne. Et entre 60 et 30, par là, ou 29, il y a une sorte de vide juridique jusqu'aux accords du Latran, c'est-à-dire c'est la situation actuelle de l'État du Vatican, qui a été conclue sous Pie XI, je dirais à l'époque, je crois que c'est en 29 par là. Et du coup, le concile a été interrompu en 70, sine die, c'est le terme latin, c'est-à-dire sans date. Et c'est Jean XXIII, en convoquant un concile en 59, qui a décidé que Vatican I serait terminé et on commencerait un autre concile qui va s'appeler Vatican II. Vous voyez, ça vous explique donc un peu les choses. Donc, le concile Vatican I est un torso, c'est-à-dire une symphonie non achevée. Non achevée. C'est très, très important de dire ça. Très important. Donc c'est très conflictuel parce que la question centrale que tout le monde attend, c'est-à-dire l'Église se sent assiégée, il faut bien le dire, une forteresse assiégée, on va le voir maintenant dans les textes. Et du coup, comment dire, l'idée principale de la majorité est le seul recours, donc le texte, vous voyez, Matthieu 16, « Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais », le seul et ultime recours, c'est Pierre. Et d'où donc les infaillibilistes, comme on dit la majorité, c'est-à-dire ceux qui viennent à Rome pour définir le primat juridictionnel de l'évêque de Rome, donc son primat sur la totalité de l'Église, et en même temps son infaillibilité. Et il y a une minorité importante qui ne veut pas de ça, et qui dit qu'il faut avoir gardé la tête froide d'une certaine manière et pas définir trop rapidement ces choses-là. Et pour vous dire, n'est-ce pas, c'était des gens musclés, hein, musclés. La minorité a pris le train avant la proclamation finale. Et il y a à peu près 25-30% d'évêques qui ont quitté le concile, qui se sont ralliés après. Vous imaginez ça aujourd'hui? Oui, les mœurs ont changé. Vous imaginez, j'ai dit à une minorité là, dans le Synode de Rome, avant le samedi, de dire au revoir, on n'est pas d'accord et on va quitter. On a quitté quand même, connu ces situations dans l'histoire de l'Église. Alors ils sont ralliés après, là, presque tous, voilà. Mais ça veut dire quelque chose quand même sur le concile lui-même, n'est-ce pas? Et sur le problème de la réception que ça va poser, et c'est Vatican II qui va régler pour une part cette question-là. Voilà, donc il faut bien savoir. Donc un contexte culturel et division interne du concile, les infallibilistes et ce qu'on appelle les libéraux. Alors la question c'est comment au fond, je dirais, l'Église s'est-elle vue? Et comment elle a situé l'autre? Alors du coup, je vous invite à regarder le prologue du premier texte, je vais vous le lire, et vous avez, donc il est la page 66 de votre dossier. À la page 66 de votre dossier, et vous avez à la page 71 un schéma qu'on va regarder d'abord. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'édifice doctrinal du catholicisme. J'ai utilisé maintenant une autre métaphore, citadelle, et quand il y a édifice ou quand il y a citadelle, il y a peut-être aussi un cheval de Troie. Vous voyez, ça c'est l'image qu'on va utiliser, si vous voulez, pour les fils de l'Église catholique qui, d'une certaine manière, font entrer la société un peu trop à l'intérieur de la cité, de l'édifice. Alors, le texte vous le montre, on va le lire pour une partie, mais je vais d'abord vous expliquer le schéma. Le schéma suit le texte. Le texte, dans un premier paragraphe, fait mémoire du passé. Et donc, il remonte, si vous voulez, jusqu'au Concile de Trente, ce qui est normal. C'est-à-dire, on se relie au Concile précédent. Passé. Et ensuite vient un diagnostic de la situation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est là où on va émerger l'autre. Comment il est vu? La situation. Ce que Vatican II va faire aussi, c'est-à-dire au début de la constitution Gaudium et Spes. Là aussi, vous avez un diagnostic. Et ensuite vient ce que les sociologues appellent une utopie. Le catholicisme de cette époque, c'était un catholicisme apocalyptique et utopique. Apocalyptique parce que, comment dire, on est d'une certaine manière dans une situation d'affrontement avec le monde, avec une grande force. Et utopique, parce que ce n'est pas négatif, il y a une vision. Il y a une vision, une vraie vision à Vatican II, à Vatican I, Vatican II aussi. Une vision d'avenir. Et ensuite vient la finale du prologue où le texte dit ce qu'il veut faire. C'est-à-dire porter un jugement doctrinal, magistériel. Voilà. Alors ensuite, je parlais d'architecture, et ça c'est, si vous voulez, les trois sphères, et qui reproduisent d'une certaine manière les églises classiques, je veux dire le classicisme qu'on a en Italie, en France, un peu le baroque, mais plutôt le classicisme. Vous avez donc la sphère céleste, donc le Père avec le Fils qu'il envoie plus tard dans l'utopie Dieu et Jésus-Christ. Vous avez la sphère ecclésiale. L'Église militante, voyez la terminologie qui vient de loin du Moyen-Âge, l'Église militans, Ecclesia militans. L'Église céleste, l'Église militante, c'est-à-dire celle qui, évidemment, étant assiégée ici, s'éprouvant ici, se bat. Voilà. Et vous avez donc le monde. Et il y a un rapport d'extériorité. D'extériorité. Alors maintenant, quelques extraits, je dirais, du texte, du prologue. Donc, je ne vais pas lire le premier paragraphe, qui est donc une lecture, si vous voulez, je dirais, une relecture. Vous avez les mots-clés sur le schéma. Donc, les mots-clés, providence, assistance, univers chrétien. Vous avez le concile de Trente encadré, donc l'autorité qui parle, et le chef visible de cette église. Et vous avez toute la propaganda fidei, c'est-à-dire la foi qui se propage. Il n'est pas question de colonialisme, mais il y a question de, évidemment, de mission. Alors, je vous lis le début, le deuxième, troisième, quatrième paragraphe, et on va faire la pause. Toutefois, en rappelant dans la joie de notre âme ses insignes bienfaits. C'est le pluriel de majesté, c'est le Pie IX qui parle. Et d'autres encore que la Providence a accordé à l'Église par le dernier concile surtout, nous ne pouvons taire notre grande douleur à la vue, donc vous voyez, une sorte d'extériorité, à la vue des mots très graves venus principalement de ce que beaucoup ont méprisé l'autorité de ce Saint Synode et négligé ses sages décrets. Alors le concept clé, c'est celui d'autorité, qui va d'ailleurs traverser l'ensemble du texte, l'autorité. Personne n'ignore en effet qu'après avoir rejeté le divin magistère de l'Église, donc le terme vient maintenant, c'est le concile qui est visé, et abandonné au jugement privé, vous avez déjà entendu ce terme tout à l'heure dans le texte, le deuxième décret, protestant le jugement privé, personnel, les choses de la religion, les hérésies proscrites par le concile de Trente se sont divisées peu à peu en sectes multiples dont les dissentiments et les rivalités ont fini par ruiner chez beaucoup la foi au Christ. Les livres sacrés eux-mêmes, qu'on affirmait autrefois être la source unique et le juge de la doctrine chrétienne, ont cessé d'être considérés comme divins ou même ont été assimilés à des inventions fabuleuses. Donc ça, c'est la critique historique, vous voyez, dans les textes depuis le XVIIe siècle, etc., qui s'est introduit ici, Semler, Lessing, etc. C'est alors, vous voyez, on arrive au seuil qu'a pris naissance que s'est répandu par le monde cette doctrine du rationalisme et du naturalisme qui s'attaquant par tous les moyens à la religion chrétienne parce qu'elle est surnaturelle. Je vous en ai parlé dans la Demonstratio Christiana, s'efforce avec une extrême ardeur d'établir le règne de ce qu'on appelle la raison pure et la nature, c'est Kant qui est visé ici, après avoir arraché le Christ, notre seul Seigneur et Sauveur de l'âme humaine, de la vie et des mœurs des peuples. Or, cet abandon et ce rejet du christianisme, cette négation de Dieu et de son Christ, donc même du christianisme, ont fait que beaucoup se sont précipités dans l'abîme du panthéisme, du matérialisme et de l'athéisme. Voilà le deuxième seuil. Si bien que, niant la nature rationnelle elle-même et toute règle du droit et du juste, ils se forcent détruire les fondements de la société humaine. Voilà la troisième utilisation du terme « fondement ». Cette impiété portant partout ses ravages, plusieurs des fils de l'Église catholique s'écartaient, donc le cheval de Troie, eux aussi du chemin de la vraie piété, et en eux le sens catholique s'était émoussé par l'amoindrissement insensible de la vérité. Séduit en effet par la variété et la nouveauté des doctrines et confondant à tort la nature et la grâce, nature et surnaturelle, la science humaine et la foi divine, il se trouve donné au dogme un sens détourné de celui que tient et enseigne la Sainte Église, leur mère, et mettre en péril l'intégrité et la pureté de la foi. Devant un pareil spectacle, comment se pourrait-il faire que l'Église ne fût pas profondément émue? Car, et voyez, maintenant vient l'utopie, car comme Dieu veut le salut de tous les hommes et l'arrivée de tous à la connaissance de la vérité, deuxième comme Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui avaient péri et rassembler dans l'unité les fils de Dieu dispersés, de même, l'Église, établie par Dieu, mère et maîtresse des peuples, sait qu'elle se doit à tous et qu'elle est toujours disposée et attentive à relever ceux qui sont tombés, à soutenir ceux qui défaillent, à embrasser ceux qui lui reviennent. Voyez donc, l'œcuménisme de retour, on l'appelait ça comme ça, à confirmer les bons et à les pousser à la perfection. Aussi ne put-elle jamais s'abstenir d'attester et de prêcher la vérité divine qui guérit toute chose. Ah, c'est beau, hein? La vérité qui guérit toute chose. Car elle n'ignore pas qu'il lui a été dit « Mon esprit qui est en toi et mes paroles que j'ai posées sur tes lèvres ne s'éloigneront jamais de tes lèvres. » Et ensuite vient le jugement. Bon, on va y revenir à la pause, à ce texte. Il ne faut pas faire d'anachronisme. On est au 19e siècle et vous voyez la vision, je dirais, de l'Église et de l'autre qui nous est proposée à cette époque-là. Bien, on va jeter encore un coup d'œil sur l'esquisse de la page 71. Je vous avais invité avant la pause de ne pas faire des anachronismes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est vraiment, je dirais, dans une autre société à la fin du 19e siècle. Et on peut parfaitement comprendre, je dirais, ce genre de texte et de réaction. C'est pour ça que j'insiste toujours beaucoup. Il ne faut pas lire le Concile Vatican I, uniquement les déclarations doctrinales, mais c'est le prologue qui est important parce qu'il nous fait comprendre, au fond, je dirais, comment les choses se situent. Donc, jetez encore un coup d'œil sur le schéma. Vous voyez, ce qu'il frappe le plus peut-être pour nous et qui est étranger pour nous, c'est-à-dire, c'est au fond, je dirais, ce qu'on peut appeler un ecclésiocentrisme. C'est-à-dire, l'Église catholique est au centre. Et même au-dessus, voyez, même au-dessus. La métaphore qui revient toujours, je dirais, déjà pendant le Concile, c'est la lampe sur le lampadaire. Mais, vous voyez, la métaphore du sel qui vient tout de suite chez Matthieu, celle de la terre, elle ne vient pas. Mais c'est celle du lampadaire, c'est-à-dire, elle est exposée, voilà, visible, la visibilité. Et donc, il y a un rapport d'extériorité par rapport à la société. Et évidemment, dans le diagnostic de la situation, ce qui est apocalyptique ici, vous voyez la douleur de Pie IX, le spectacle qu'il décrit là, vous voyez les flèches que j'ai mis là, en bas. C'est au fond le récit d'une décréation. Comme si la création, la société créée, qui est créée, qui est une création, se dérobait sous nos pieds, et ça se termine avec la destruction des fondements de la société. C'est ça qui est éprouvé. Et ça, c'est un sentiment, oui, je veux dire, qu'on peut comprendre, je veux dire, qui habite certains catholiques, par exemple, en France, aujourd'hui. La société se dérobe sous nos pieds. Et on a les fautifs, évidemment, le rejet du magistère, le jugement privé, aujourd'hui, on dirait individualisme, le jugement personnel, c'est le luthéranisme, protestantisme qui est visé, le rationalisme, le naturalisme, et finalement, les gens arrachent le Christ de l'âme humaine des peuples. Vous voyez, je dis, c'est difficile pour nous de concevoir ça. C'est-à-dire, évidemment, je dis, dans une situation missionnaire, arracher le Christ de l'âme des peuples, ça suppose la chrétienté. Elle est présupposée. Donc, une décréation. Et du coup, je dirais, on va s'attaquer au cheval de Troie. Vous voyez, c'était encadré. Et alors, l'utopie, les frontières disparaissent. Donc, le double argument, c'est clair, hein, c'est scripturaire, Dieu veut le salut de tous les hommes, que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ n'est pas venu pour quelques-uns, mais pour tous. Donc, l'Église, et voyez là, elle se met au centre, mère et maîtresse des peuples. Alors, c'est difficile à entendre aujourd'hui. Mère et maîtresse des peuples, se doit à tous, etc., etc. Donc, vous voyez, les frontières disparaissent. C'est ça l'utopie. Voilà. Au fond, c'est l'utopie de la chrétienté. Que finalement, tous deviennent catholiques. Voilà. Ça serait quand même tellement bien. Voilà. Alors, du coup, vous voyez, à la fin vient le jugement. Donc, encore une fois, ne faites pas d'anachronisme, essayez de comprendre cette affaire-là. Alors, les textes maintenant, vous voyez le point D. Le Concile est resté fragmentaire, il nous a laissé deux textes, deux constitutions. Donc d'abord, je dirais la constitution dogmatique sur la foi catholique, donc qui est la suite de ce texte, De Filius. Mais attention, c'est un texte réduit. C'est un texte réduit parce qu'évidemment, la foi catholique, c'est plus large. Si vous continuez à feuilleter ce texte, vous avez les quatre chapitres. Donc, vous avez vu ça. Hein. Donc, Dieu créateur. Donc, ça concerne de toute chose la société. La révélation, chapitre 2. Ensuite, chapitre 3, la foi. Et chapitre 4, la foi et la raison. Et ensuite, venait un chapitre sur la Trinité, sur le péché originel, etc. Vous voyez, on passait en revue tout l'édifice doctrinal. Et c'est uniquement la première partie qui a été promulguée. Donc, les textes de théologie fondamentale. Et ensuite, la même chose pour Pasteur Eternus. C'est le deuxième texte, Constitution dogmatique sur l'Église du Christ. Alors, ce texte parlait d'abord, je dirais, de l'Église, des évêques, du salut des incroyants, etc. Et à un moment donné, il parlait aussi du pape. Et c'est là où il y a les infabilistes qui sont intervenus. Et on dit, non, il faut traiter tout de suite du pape, parce que l'Église repose sur le pape. Et donc, on a parlé d'abord du magistère du pape, du droit de juridiction. Et vous avez aussi ce texte, plus tard, je dirais, il est dans votre dossier, à la page 107. On ne va pas le regarder maintenant, parce que je vais le présenter, évidemment, dans la troisième partie du cours. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de contingent qui s'est passé. La guerre franco-allemande, oui, mais ça produit que, finalement, Vatican I est devenu un concile de théologie fondamentale. Uniquement. Toutes les questions autres ont été éliminées et on ne pouvait pas les traiter parce que le concile ne s'est plus réuni. Alors du coup, vous voyez, je vous donne maintenant un peu le détail des textes à la page 12. En commençant par la demonstratio religiosa, parce que maintenant, je dirais, l'argumentation se met, si vous voulez, sur les pieds. On commence par la demonstratio religiosa. On l'a déjà dans le prologue. Que je viens de vous lire, les fondements de la société, un certain rapport à la raison, une raison ouverte, à Dieu, etc. Et évidemment, le premier chapitre est un paragraphe du deuxième chapitre, le premier paragraphe du deuxième chapitre sur la connaissance naturelle de Dieu, porte évidemment sur la demonstratio religiosa. Donc, la connaissance de Dieu fait partie de la structure même de la société humaine. Et le chapitre 4 aussi, les rapports entre foi et raison. L'Église milite, voilà le résumé pour le moment, avant qu'on regarde de près plus tard. L'Église milite pour une raison ouverte à la transcendance. Et ça, c'est juste. Vous voyez, l'Église s'oppose ici. Alors, est-ce qu'il faut appeler cette transcendance déjà Dieu ? Est-ce que c'est le Dieu des chrétiens ? Mais l'Église s'oppose ici, en plein XIXe siècle, au jacobinisme. C'est finalement une vision assez totalitaire de la société. Ce n'est pas le totalitarisme. Plus tard, ce sera le totalitarisme. La raison n'est pas tout. La raison humaine est ouverte. Ça, c'est la leçon qu'il faut recevoir aujourd'hui du Concile Vatican I, et qui reste, l'ouverture à la transcendance. Alors, est-ce qu'elle doit prendre cette forme qu'elle a prise à Vatican I ? Vous voyez, ça, c'est une autre question. Mais ça, c'est, si vous voulez, le cœur de vérité du Concile Vatican I sur ce point. Et ensuite, vient la demonstratio christiana. Qu'est-ce que c'est être chrétien ? Alors c'est dans le chapitre 2, la révélation chrétienne, elle est définie ici. C'est dans le chapitre 3 qui nous parle de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi ? L'écoute de la foi, l'obéissance de la foi. L'identité chrétienne se définit à partir de la révélation surnaturelle, on précisera plus tard ce terme. Donc ça c'est en opposition à l'âge des Lumières, et l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Et ensuite, la demonstratio catholica, on la trouve pour une partie dans le chapitre 2, parce que le chapitre 2 va répéter le concile de Trente. Les livres, quels sont les livres et comment les interpréter? Où est-ce qu'on trouve la révélation? Dans les Écritures et la tradition. Et ça, c'est catholique. Voilà l'identité catholique. Et dans le chapitre 4, sur l'interprétation des dogmes. Et ensuite, évidemment, ce qui est proprement demonstratio catholica, c'est la définition du magistère, et notamment du magistère pontifical. Du magistère pontifical. Ça, c'est la constitution pastor aeternus. Je résume de nouveau. L'écriture et la tradition portent l'édifice doctrinal du catholicisme construit, c'est ça qui est nouveau à Vatican I, construit par le magistère catholique. Alors, voyez ce texte, je résume un tout petit peu. C'est au fond, quand on le regarde aujourd'hui, il faut évidemment en sortir, si vous voulez, ce que Vatican I, Vatican II va faire. Vatican II va recevoir Vatican I, on va le voir, et en sortir ce qui nous concerne, évidemment, aujourd'hui, historiquement. Mais Vatican I est l'institution et la régulation de ce qu'il faut bien appeler une culture catholique. Et qui est une contre-culture. Une contre-culture. Vous avez la naissance en Europe d'une culture laïque, et même laïciste, les républiques vont naître, et le catholicisme va s'y opposer. Donc, une culture catholique. Et Vatican I, c'est l'institution et la codification d'une culture catholique. Ce qui est remarquable, ce qu'il faut voir quand même, c'est que cette culture catholique tente de répondre aux difficultés et aux effets pervers de la modernité. L'industrialisation, Rerum Novarum, vous voyez, je dirais, question sociale, tout d'un coup elle va émerger ici, l'industrialisation, et on va essayer de proposer un univers symbolique catholique, extrêmement précis dans l'art, c'est l'art nazérien, n'est-ce pas, le néo-roman, le néo-gothique, dans la musique, je dirais, la musique néo-romane, néo-gothique, etc. On aura des premiers pèlerinages à Rome, je dirais, c'est évidemment les trains, les chemins de fer qui sont construits partout en Europe. Donc on va profiter de tout cela et on va créer une sorte de symbolique catholique dans laquelle au centre se trouve évidemment le pape Pie IX et Léon XIII, Pie X, vont évidemment continuer cette construction-là. Voilà, c'est ça qui est derrière. Donc il ne faut pas uniquement voir l'édifice doctrinal, mais il faut voir ce que ça représente, avec une conception de la mission qui va évidemment exporter ça en Afrique, en Amérique latine, etc., en Inde, un peu partout. Voilà, une sorte d'unification d'un univers culturel catholique. Alors, c'est traversé tout de suite par des crises répétées. La crise moderniste, voyez, je vous ai mis les dates, 1893-1913. Qu'est-ce qui va produire la crise? C'est l'histoire. C'est l'histoire depuis le XVIIIe siècle. Alors, l'univers catholique est un univers anhistorique, transculturel et anhistorique. L'histoire va intervenir. L'histoire va intervenir évidemment dans ce qu'on appelle la question biblique, dans le rapport du catholicisme au dogme. Donc vous voyez, tous les marqueurs fondamentaux du catholicisme seront touchés. Les écritures, pensez au Concile de Trente, à Vatican I, l'édifice doctrinal, le dogme, la tradition, elle est traversée par l'histoire. Et finalement la révélation, et même la conception de la raison. Même la conception de la raison est historique. Et du coup, il y a trois encycliques, sous Léon XIII et Pie X, qui vont tenter, si je puis m'exprimer ici, pardonnez-moi cette expression, sauver les meubles. Il y a un peu ça. C'est-à-dire la grande encyclique Eterni Patris, sous l'autorité de saint Thomas. Vous voyez, ça c'est le néo, hein. C'est pas saint Thomas en lui-même, mais on a les premières, la Léonine, c'est la première grande édition, je veux dire presque critique, déjà de saint Thomas, hein, la Léonine à Rome. Mais saint Thomas devient vraiment le penseur de cet édifice de la culture catholique. Ça concerne évidemment la raison. Providentissimus Deus, 93, sur l'autorité de la Bible, la première d'une série d'encycliques sur la Bible. Et Pascendi qui condamne le modernisme avec cette expression terrible, c'est-à-dire en utilisant l'image, je dirais, des égouts romaines, c'est-à-dire c'est l'égout de toutes les hérésies. La cloaque de toutes les hérésies, c'est le modernisme. Voilà. Le rendez-vous, a-t-on traduit en français, de toutes les hérésies, le modernisme. Alors ensuite vient évidemment, je dis, la Première Guerre mondiale, qui est terrible, hein, comme chute, parce que c'est des chrétiens contre des chrétiens. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ce qu'on est en train de redécouvrir à l'heure actuelle, avec le centenaire de 14-18. Des chrétiens contre des chrétiens. Voilà. Quel est ce Dieu-là? Et donc c'est une cause, évidemment, je dirais, de la déchristianisation radicale au cœur même de la chrétienté, qui est encore fondamentalement européenne et méditerranéenne. Voilà. Et donc, on a quelques grands papes qui interviennent ici, et ce sont des interventions à la fois doctrinales et politiques. Et politiques. En 1900, c'est-à-dire évidemment, je dirais, le Christ roi, la figure du Christ roi, qui devient, je dirais, la figure de proue de l'action catholique, et ensuite les grandes encycliques 43 sur l'Église, sur l'Écriture de Pie XII et 1950, qui sonnent en fait le glas de ce catholicisme doctrinaire, il faut le dire, sur certains points. Et on viendra donc maintenant, vous voyez, à cet événement absolument étonnant, dernière partie de ce chapitre, le Concile Vatican II. Il n'est pas tout à fait inattendu, parce que déjà Pie XI et Pie XII ont pensé à continuer le Concile Vatican I et de l'achever. Et les textes que Pie XII avait prévus sont devenus l'encyclique Humani Generis de 1950, que je viens de nommer. Voilà. Et c'est donc Jean XXIII, élu en octobre 1958, qui convoque le 25 janvier à la basilique Saint-Paul hors les murs. C'est la fête de la conversion de l'apôtre Paul, le Concile Vatican II. Il nomme pas encore ainsi, ça viendra plus tard, l'année suivante, en 60, voilà, qu'on commence la préparation. Voilà. Et donc, trois choses, un synode pour le diocèse de Rome, un concile œcuménique, appelé Vatican II, et la réforme du code de droit canonique, qui date de 1917, pendant la Première Guerre mondiale, les canonistes romains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un droit canonique. Alors, l'Église romaine n'a pas uniquement fait cela, mais voilà, quand même, à chaque fois, ça me fait méditer, ça. Voilà. Alors, il faut regarder, vous avez ça à la page 72, le discours d'ouverture, c'est d'une heureuse coïncidence, maintenant on en s'est voulu, donc c'est le Saint-Pape maintenant, Jean XXIII, voilà, Saint Jean XXIII, et nous fêtons sa fête le 11 octobre, donc c'était le samedi dernier, et c'est l'ouverture du Concile qui a été choisie, le 11 octobre 62. Et vous avez à la page 72 quelques extraits importants du discours d'ouverture. Parce que si vous voulez, je dirais, il faut le comparer avec ce que nous venons de faire et de mesurer la distance par rapport au prologue du concile, du premier texte du Concile Vatican I. Alors, il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de notre ministère apostolique, nos oreilles, dit Jean XXIII, soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manque de justesse, de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine et calamité. Ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Ils se conduisent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie, alors ça c'est très humaniste si vous voulez, historia magistra vitae, hein, c'est un adage, l'histoire maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre, et comme si du temps des conciles d'autrefois tout était parfait en ce qui concerne la doctrine chrétienne, les mœurs et la juste liberté de l'Église. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. Voyez, ça c'est l'acte qui fait l'Église catholique sortir de son catholicisme apocalyptique. Voyez, ce que j'ai appelé tout à l'heure catholicisme apocalyptique. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la providence divine, qui, à travers la succession des temps et des travaux des hommes, la plupart du temps, contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse pour le bien de l'Église, même les événements contraires. Donc, on a complètement changé de vue du monde ici. Vous voyez, il faut voir les rondeurs. Vous voyez, Pie XII incarné, n'est-ce pas, avec elle, c'était un personnage très mince, n'est-ce pas, et très, très ascétique. Il incarnait la transcendance, n'est-ce pas. Alors, quand vous voyez la rondeur de Jean XXIII, n'est-ce pas, et la bonté, vous l'entendez ici, n'est-ce pas. C'est toute une autre manière de se situer au sein de la société, dans l'humanité, et évidemment, au cœur de l'Église. Voyez, une autre manière. On est dans un univers de communication. La communication. Voilà, donc ça c'est la première chose à dire. Une nouvelle perception de la société, de l'histoire, et du coup de l'autre aussi. De l'autre. Voilà. La bonté d'abord, l'autre. La miséricorde d'abord. Alors ça c'est extrêmement important. On passe d'une vision en termes techniques apocalyptique de l'histoire à une vision sapientielle de l'histoire. Vous voyez le terme, le vocabulaire de sagesse que vous trouvez ici. Vous voyez. Et une prise de conscience aiguë que nous sommes à un tournant. 1962, un tournant. Vous voyez. C'est la grande année 62. C'est la décolonisation. C'est les accords d'Évian. C'est-à-dire la fin de la guerre d'Algérie, c'est la réconciliation franco-allemande. C'est en même temps, vous voyez, le début du Concile Vatican II, il y a 50 ans. L'année suivante, c'est la crise de Cuba. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas, les missiles russes sur Cuba, etc. C'est le mur de Berlin, etc. Donc on entre dans ce monde bipolaire, un tournant. Et donc l'idée de Jean XXIII, c'est de réactualiser la lecture des signes des temps. Les signes des temps. L'Esprit Saint nous parle à travers les signes des temps. Alors ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose à retenir, si vous voulez, je dirais, de cet ensemble, c'est le projet, c'est donc à la page suivante, le projet de Vatican II. Ce que on va appeler la forme pastorale de la doctrine. Ces choses étant dites, je continue ma lecture un peu plus loin, donc la page suivante. Vénérables frères, il est possible de voir avec suffisamment de clarté la tâche qui attend le Concile sur le plan doctrinal. Vous l'avez, j'espère. Le 21e Concile œcuménique veut transmettre dans son intégrité, sans l'affaiblir ni l'altérité, la doctrine catholique, qui malgré les difficultés et les oppositions est devenue comme le patrimoine commun des hommes. Et un peu optimiste là. Cependant, ce précieux trésor, nous ne devons pas seulement le garder comme si nous n'étions préoccupés que du passé, mais nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte au travail qu'exige notre époque. en poursuivant la route sur laquelle l'Église marche depuis près de 20 siècles. Donc, voyez, herméneutique, notre époque. Nous n'avons pas non plus comme premier but de discuter de certains chapitres fondamentaux de la doctrine de l'Église et donc de répéter plus abondamment ce que les pères et les théologiens anciens et modernes ont déjà dit. Cette doctrine, nous le pensons, vous ne l'ignorez pas, elle est gravée dans vos esprits. Voilà, on retrouve le roublard d'une certaine manière, l'humour de Jean 23. Et avec un revers de main, il met de côté toute la préparation du concile, large part. Il y avait 66 schémas, vous voyez. On va arriver à 16. Et une bonne partie sera refaite complètement. Et maintenant viennent les points essentiels. Deux points. En effet, s'il était agi uniquement de discussions de cette sorte, il n'aurait pas été besoin de réunir un concile œcuménique. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est alors premièrement le principe de réception. C'est l'adhésion de tous, dans un amour renouvelé, dans la paix et la sérénité, à toute la doctrine chrétienne dans sa plénitude. Donc vous voyez, là, il parle de doctrine chrétienne, transmise avec cette précision de termes et de concepts qui a fait la gloire particulièrement du Concile de Trente et du premier Concile de Vatican. Il faut que cette doctrine soit plus largement et hautement connue, que les âmes soient plus profondément imprégnées d'elle, transformées par elle. Vous voyez, ça semble être quelque chose, je dirais, de banal. C'est absolument pas banal. Parce qu'il s'agit ici de l'objectivité, évidemment, d'une doctrine. Il faut encore voir de quoi il s'agit. Mais l'enjeu, ce n'est pas la doctrine. C'est la réception et la transformation des récepteurs par cette doctrine. Donc, c'est le récepteur qui entre ici subitement dans l'intérêt. L'autre, le récepteur. Et maintenant vient alors une formule étonnante qui a été transformée dans la version latine par la Curie et que le pape qui a écrit son discours en latin a toujours cité après en italien. Pardon, il l'a écrit en italien et il l'a toujours cité en italien. Alors, la traduction de la Curie l'a transformée. Nous verrons plus tard l'enjeu. Je vais vous lire d'abord l'original que vous avez en note à droite en bas. Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, soit étudiée et exposée suivant les méthodes de recherche et la présentation dont use la pensée moderne. C'est exactement ce que voulait faire le modernisme. Donc, c'est la question de la méthode, la manière. Car, et maintenant vers la distinction très importante, autre est la substance de la doctrine antique contenue dans le dépôt de la foi, autre la formulation. Voyez, apparaît tout d'un coup la distinction entre ce qu'est la substance de la foi et la forme historique et culturelle qu'on donne à cette substance. Et donc, cette forme est historique. Autre, vous voyez, est la substance de la doctrine antique contenue dans le dépôt de la foi, autre la formulation dont on la revêt. En se réglant pour les formes et les proportions sur les besoins d'un magistère et d'un style, surtout pastoral. La pastoralité de la doctrine, vous l'avez ici. Donc ça veut dire, c'est pas la question de rajouter encore des dogmes à des dogmes, mais le problème c'est la réception, et dès que vous avez quelqu'un qui émet et qui reçoit, vous êtes dans une relation pastorale. Et là, il faut de la patience, c'est ça qui est l'enjeu. Alors regardez le texte latin. En effet, donc je reviens maintenant à ce qui est en grandes lettres, autre est le dépôt même de la foi. Et là, la Curie a introduit quelque chose, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre véritable doctrine. Vous voyez, on passe tout d'un coup sur le pluriel. le pluriel des dogmes. La substance a disparu. Et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées. Donc, voyez, ce qui est fondamental, c'est les vérités, ici dans le texte latin. Ce n'est plus comme dans le texte de Jean 23, la substance vive de l'évangile, comme il dira. Donc là, il y a vraiment une transformation, et le texte ajoute une formule de Vincent de Lérins, qui est tirée de Vatican I, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. On verra les choses plus tard pour voir la signification. Donc ce qu'il faut retenir du discours original de Jean 23, c'est donc la forme pastorale de la doctrine catholique. Ça implique trois choses. Premièrement, connaissance et réception de la doctrine. Deuxièmement, une présentation pastorale à partir de la substance qu'est l'évangile, la source. Donc la question de la forme que j'ai déjà introduite en parlant de la forme catholique et la forme luthérienne de la foi. Et alors la troisième et dernière chose, la plus étonnante, après 20 conciles, Vatican II est le premier qui condamne rien, sauf la bombe atomique. Voilà, la guerre totale. C'est le premier concile qui ne connaît plus la formule anathemasit. Donc, voyez, ça vous inscrit dans la lettre du texte le changement de la relation que le concile et Jean 23 et ensuite Paul VI, sa première encyclique porte sur le dialogue, entretiennent avec l'autre. Alors, je vous invite à prendre la page 75, et donc on va regarder, si vous voulez bien, pour terminer, le schéma. Pour que je le retrouve, voilà. C'est très bien. Alors, il est tiré, vous le trouvez dans l'histoire des dogmes, je vous l'ai reproduit ici. Vous pouvez aussi éventuellement lire l'introduction dans l'intégrale de Bayard, vous le trouvez aussi. C'est une manière de vous familiariser très rapidement, pendant quelques minutes, non pas avec le détail, je dirais, du corpus textuel, qui est le résultat, finalement, de Vatican II, mais avec, si vous voulez, je dirais, la structure globale de ce corpus. Donc c'est un schéma qui est un peu le pendant du schéma que je vous ai distribué sur Vatican I. Un corpus. Vous avez à droite, je dirais, les textes, avec leur abréviation et leur titre. Et donc, c'est déjà une option, c'est une option française, parce que l'édition française, c'est la seule qui a ordonné les textes de cette manière-là. Les constitutions, c'est-à-dire de commencer avec l'Lumen Gentium. Donc au début, une constitution sur l'Église, et la quatrième est aussi une constitution sur l'Église. L'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Et entre les deux, la révélation et la liturgie. Alors l'édition classique, traditionnelle, est une édition chronologique. Chronologique. Alors ici, on les ordonne. Donc il y a trois genres de textes. Il y a les constitutions, ensuite vient les décrets, on tend derrière décrets d'application. Et là, vous avez aussi un ordre, vous voyez, hiérarchique. C'est typique. On commence par les évêques, la vie et les prêtres, formation des prêtres, la vie religieuse, les laïcs, l'activité missionnaire, l'œcuménisme, les et l'Église orientale catholique, les moyens de communication. Et ensuite vient la matière atomique, hautement sensible, au moins pour deux textes. C'est pour cela qu'on les a mis sous le titre « déclaration ». Vous voyez, c'est une manière parfois un peu, je dirais, de les déprécier. On entend « déclaration d'intention », donc la liberté religieuse, et les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Alors le corpus maintenant, le schéma, il est très simple à comprendre. Vous avez un axe vertical et un axe horizontal. J'appelle l'axe vertical l'axe spirituel et l'axe horizontal l'axe de communication. Alors prenons d'abord l'axe vertical, l'axe spirituel, la colonne vertébrale de l'ensemble de ce corpus. C'est la notion de révélation. Dieu s'est révélé en personne. Évidemment, on va revenir longuement à cette notion. Et le correspondant de cette notion, c'est évidemment tout à fait en bas du schéma la conscience, donc une théologie de la conscience, et donc une réflexion aussi sur l'acte de foi qui répond à la révélation, et c'est un acte par définition libre, et là vous trouvez la liberté religieuse. Donc vous avez chaque fois, de manière abrégée, DV, DH, les textes. Ça, c'est l'axe spirituel de l'ensemble. Et les flèches sortent du schéma, parce qu'évidemment, on ne peut pas schématiser la révélation, Dieu, et ni la conscience, l'intériorité de l'être humain. Alors vient tout de suite la question, où se trouve la révélation? Où? Voilà. La foi chrétienne, c'est quoi? Écriture et tradition. Et donc, c'est ce premier camembert, entre guillemets, qu'il faut situer dans l'espace, un peu comme un miroir. Ce qui m'a guidé ici, c'est une métaphore que nous allons retrouver dans Dei Verbum, qui dit « L'écriture et la tradition sont comme un miroir dans lequel l'Église, sur son cheminement terrestre, contemple ce qu'elle est et ce qu'elle croit. Ce qu'elle croit et ce qu'elle est. » Vous voyez, l'écriture est ce miroir aussi critique d'une certaine manière, on va le voir, avec la tradition. C'est pour ça que je l'ai mis en haut, hein, donc Dei Verbum. Et vous avez au-dessous la sphère ecclésiale, donc avec les affirmations principales du Concile, l'Église sacrement de l'union entre Dieu et l'homme, peuple de Dieu, les églises particulières et tout ce qui relève de la structuration interne de l'Église. Là, vous avez tous les textes qui sont indiqué qui traite de ça. Ce qui nous conduit évidemment vers le cœur du concile, et c'est le croisement des deux axes. Si la relation entre Dieu et l'homme, c'est une relation d'amitié, comme dit le texte, d'alliance, d'amitié, il faut qu'on retrouve ce type de relation, ce style de relation entre l'Église et les autres. Vous voyez, la théologie fondamentale entre le Christ et les autres, entre l'Église et les autres, le rapport aux autres. Et là, vous avez évidemment tous les cas de figure, l'athéisme et l'incroyance, les religions non chrétiennes, l'œcuménisme, et tout cela est traité avec les questions de société, notamment dans Gaudium et Spes, notamment dans la deuxième partie de Gaudium et Spes. Voilà, ça vous donne, si vous voulez, un peu, je dirais, une idée du corpus de Vatican II. Les deux axes. Alors, maintenant, si on prend les textes de théologie fondamentale qui vont nous intéresser dans ce cours, c'est le point C, le dernier. Donc, on va rapidement, je dirais, les regarder. Alors, évidemment, parce que là vient déjà une indication de lecture pour vous. Je vais vous dire en même temps les textes qu'il faut un peu travailler plume à la main, personnellement ou éventuellement en groupe. Et évidemment, le texte principal, et qui est même s'il est parmi les derniers textes, c'est la Constitution sur la révélation divine, Dei Verbum, sur la révélation divine et sa transmission. 1965. C'est le deuxième texte qui a été abordé par le Concile en 62, mais c'était tellement conflictuel que le pape a retiré le texte préparatoire, a établi une commission mixte, et il a fallu tout le Concile pour qu'on arrive finalement en 65 à un certain consensus, un compromis doctrinal, pourrait-on dire. Mais ce qui est clair, que les pères ont voulu que ce texte-là soit le texte principiel, le texte fondamental, texte principiel. C'est clairement dit. Alors ensuite, se relie à ça la déclaration sur la liberté religieuse, qui est une relecture de Dei Verbum sous l'angle de la liberté. Ensuite, évidemment, un certain nombre de numéros de la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, qu'il faut traiter en ecclésiologie. Mais les numéros 14, 17, fin du chapitre 2, sont extrêmement importants concernant le rapport entre catholiques et autres. Et le numéro 25, qu'il nous parle du magistère. Ensuite, évidemment, la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, le rapport aux autres, le traité, la demonstratio religiosa, rappelez-vous, n'est-ce pas, on ne peut plus faire ça, parce qu'il y a une telle pluralité de religions maintenant dont on est conscient qu'on peut traiter de la constitution religieuse de l'être uniquement en dialogue avec les autres religions. Et finalement, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps où vous avez le diagnostic du monde présent et vous avez toute une anthropologie. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on regarde ces textes? Donc, je vous invite à les regarder, vous faites un petit programme de lecture pour vous et vous entrez un peu progressivement dans la lecture de ces textes. Il y a un déplacement de tous les paramètres de la théologie fondamentale. Sans que, voilà la thèse, sans que le Concile aboutisse en 65 à une intégration unificatrice comparable à celle opérée par Vatican I. Vatican I vous propose un édifice parfaitement construit, c'est sa limite. Vous voyez, une forteresse. Mais c'est parfaitement intégré. C'est limpide, limpide, nous allons le voir. Alors Vatican II est beaucoup plus complexe. Évidemment, il y avait énormément d'évêques à Vatican I, et je crois qu'ils étaient 280, 300, quelque chose comme ça, à un moment donné peut-être un peu plus, et à Vatican II, entre 2004 et 2008. Donc vous voyez un peu, c'est le monde entier qui est présent. Alors, il y a évidemment le rapport à l'autre qui va nous intéresser. Et de ce point de vue-là, première complexification, la différenciation des interlocuteurs dans une situation à mutation. La différenciation des interlocuteurs. Mon schéma vous le dit tout de suite. La pluralité, la différenciation. Ensuite, évidemment, la réinterprétation de la foi devient beaucoup plus complexe avec le concept de révélation et le concept historique d'événement. Et d'autres concepts nouveaux qui vont intervenir. Troisièmement, troisième complexification, l'argument de crédibilité. Je reprends les éléments. Vous voyez, catholicité ne peut plus être traitée sans œcuménicité à Vatican II. Donc le concept même de catholicité va bouger. La foi catholique, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas le traiter sans l'œcuménicité. On va aller vers une conception sacramentelle de la révélation chrétienne. Alors ça, c'est très intéressant. Le concept de surnaturel qui vient du XVIIIe siècle, on l'a utilisé aussi chez saint Thomas, bien sûr, le XVIIe, XVIIIe siècle, le Vatican I va utiliser pour caractériser la révélation surnaturelle. Ce concept surnaturel va disparaître. Et on aura une conception sacramentelle de la révélation. Donc ça, c'est la demonstratio christiana, l'identité chrétienne. Et dans le rapport de la société à son fondement religieux, voyez, l'Église ne prétend plus d'avoir la vérité. Il y a eu un grand débat là-dessus. La disparition, possession de la vérité va disparaître. Le concept, c'est-à-dire le concept qui va rappeler cela, va remplacer ça, c'est l'idée de recherche de la vérité. Et il n'y a pas de société humaine sans recherche de la vérité. Et voyez, c'est une manière de reformuler complètement l'idée d'une raison ouverte dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la même idée. La raison est ouverte. Mais qu'est-ce que je dis quand la raison est ouverte? Je dis, c'est-à-dire, tout le monde doit être en recherche de la vérité. Il n'y a pas de conscience sans recherche du vrai. Et ça doit se faire, nous dira Dignitatis Humanae, d'une certaine manière, par le dialogue, l'échange des arguments, etc., etc. Voilà, si vous voulez, les déplacements énormes qui vont ici se produire dans les textes par rapport à Vatican I. Alors, je termine, je vais demain, on a une autre séance demain à 17h, donc vous rappelez, je l'avais rappelé déjà la dernière fois, vous l'avez, il n'y a pas de séance le 11 novembre, je vais apporter demain une conclusion, un peu à l'ensemble, mais je voulais dire un dernier mot. Vous voyez, c'était peut-être un peu fastidieux pour vous de traverser cette histoire de la théologie fondamentale depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Mais je crois que c'est absolument décisif pour ne pas banaliser le Concile Vatican II et la situation actuelle. De ne pas uniquement voir, je dirais, une tranche historique, on est tellement devenu ahistorique, mais de voir les mutations qui se sont produites. Et évidemment, la grande mutation, j'en ai déjà parlé la dernière fois, la théologie fondamentale est née dans la modernité, avec l'humanisme, la réforme et la modernité. Mais avec Vatican II, on est déjà à l'âge postmoderne. On commence à entrer dans l'âge postmoderne, c'est-à-dire un christianisme mondialisé, pluriel et œcuménique. Mondialisé, pluriel et œcuménique. Et c'est pour cela que Vatican II est la charte. Mais on perçoit cela uniquement si on retraverse, si vous voulez, je dis un peu l'ensemble de cette histoire et qu'on voit bien que ce qui a bougé, c'est le rapport à l'autre. C'est le rapport à l'autre qui a changé et qui nous oblige à reposer la question à nouveau frais, mais la foi chrétienne, c'est quoi? La foi chrétienne, c'est quoi? Et quels sont ces titres de noblesse, de crédibilité dans un paysage qui est tout à fait nouveau. Voilà, et après, je vais apporter une petite conclusion demain, l'actuelle transformation de la théologie fondamentale, et on va entrer dans la première partie, on va se poser la question, la foi chrétienne, c'est quoi ? Donc voilà, à demain.